En ce 4 septembre, c'est la fête de Saint-Marin. Je suis allé il y a quelques semaines à la République de San Marino, au Saint-Marin, cette toute petite république de rien du tout, qui est grande. Mon Dieu, on passe à travers ça en un clin d'œil. C'est magnifique, par exemple. C'est très beau, dans des montagnes. Un pays libre, rempli évidemment de touristes qui viennent voir ce site magnifique en pleine Italie, et qui est un pays libre. Il y a là une basilique dédiée à Saint-Marin, et je pourrais vous parler un jour de Saint-Marin, l'an prochain, n'ayant pas grand temps aujourd'hui, puisque c'est aussi la fête d'une Québécoise remarquable dont je vous ai parlé un peu l'an dernier, Marie-Sainte-Cécile de Rome, de son nom de jeune fille, Dina Bélanger, qui est née en 1897 et qui est morte toute jeune en 1929 à Québec, et qui a été une religieuse exceptionnelle. D'ailleurs, on peut lire à la date d'aujourd'hui, dans le Prions en Église mensuel, qu'elle est née à Québec le 30 avril 97, donc il y a près de 100 ans. Et c'est pour ça que je compte en parler l'an prochain. Dina Bélanger a connu les plus hauts degrés de la vie mystique. Eh oui. Et ses écrits en révèlent le secret et toute la richesse, et dès l'âge de 14 ans, cette petite Québécoise a consacré sa virginité au Seigneur, et de 1916 à 1918, elle a poursuivi des études musicales à New York, et de retour dans sa ville de Québec, elle a donné des concerts au profit d'œuvres de charité, puis en 1921, donc à 24 ans, elle entre dans la communauté des religieuses de Jésus-Marie à Sillery, où elle porte le nom de Marie Sainte-Cécile de Rome, Sainte-Cécile étant la patronne des musiciennes. Et elle a travaillé à l'enseignement de la musique. Elle est décédée le 4 septembre 1929 et elle a été béatifiée, oui, béatifiée par le pape Jean-Paul II, le 20 mars 1993. C'est une messagère de l'amour pour le monde d'aujourd'hui, à l'exemple de Thérèse de l'Enfant Jésus. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous ai promis de vous parler aujourd'hui, à l'occasion du 5e anniversaire de son décès, du cardinal Henri de Lubac, qui est né en 1896, qui est mort donc en 1991. Il était né le 20 février 1896 à Cambrai, en France. Et on ne peut que se retourner vers cet homme exceptionnel dans ce siècle. Il a été nommé cardinal, bien que simple jésuite. Il a été l'auteur prolifique d'ouvrages extrêmement importants pour comprendre ce que c'est que d'être catholique, ce que c'est que d'être chrétien. Et il a écrit aussi des volumes extrêmement importants sur l'humanisme athée. Et il a parlé des affrontements mystiques, de certains aspects du bouddhisme. Il s'est intéressé aussi à l'Église dans la crise actuelle. Mais il s'est intéressé aussi à des grands personnages de l'histoire qui sont oubliés, comme Origène, Pic de la Mirandole. Il a enfin écrit sur Claudel, sur Peggy. Et aussi sur Dieu qui se dit dans l'histoire. Il a publié un ouvrage admirable sur Teilhard de Chardin, etc. etc. Je ne sais combien de livres de lui, que je ne les ai pas tous lus, ça serait impossible. Mais c'est passionnant. Et pourtant, son héritage, qui est extrêmement magnifique dans l'Église du XXe siècle, l'a pas empêché d'être interdit d'enseignement en 1950. Il était alors professeur à Lyon, ce qu'on appelle à Fourvière, sur la colline de Fourvière à Lyon, où il y a ce grand lieu de pèlerinage à la Sainte Vierge et où les jésuites ont une maison extrêmement importante. Il n'a repris ses cours que 8 ans plus tard, en 1958. Et finalement, Jean XXIII, quand il a ouvert le concile Vatican II, n'est-ce pas, a appelé Henri de Lubac, le père Henri de Lubac, comme consulteur, ce qui est un titre très important, avec le père Congar, qui avait aussi été en difficulté à un moment donné, parce qu'ils étaient mal compris. Non pas parce qu'ils avaient dit des choses erronées, mais ils avaient été mal compris par certaines personnes un peu trop étroites d'esprit au Vatican. Ça arrive, on ne peut pas blâmer l'Église, ça. Il y a des gens plus sévères que d'autres, et ça peut arriver. Et rien ne sert de se révolter, il faut être patient et changer les choses calmement. Alors donc, ils ont été nommés consulteurs tous les deux à la commission préparatoire à Vatican II. Ils ont préparé le concile, avec d'autres évidemment. Et en 1974, plusieurs années après le concile Vatican II, il a été nommé expert aux deux secrétariats très importants au Vatican, celui des non-croyants et des non-chrétiens. Et en 1983, il a été créé cardinal à la stupéfaction de beaucoup de gens, puisqu'il n'était pas évêque. L'héritage que le cardinal de Lubac a laissé, c'est de très nombreux volumes. Je vous en ai mentionné quelques-uns. Méditation sur l'Église, catholicisme, qui est une thèse énorme, qui a été republiée. Je ne recommande pas ça à tout le monde, c'est difficile à lire. De la connaissance de Dieu, c'est un peu difficile, mais ça se lit, ça. C'est aux éditions du Témoignage chrétien, c'est paru. Moi, j'ai une ancienne édition que j'ai achetée il y a bien longtemps. Bon, ça date, je n'ai plus la date, là, mais c'est très, très ancien. Le papier est jauni, 1947-48, voyez-vous. J'avais 30 ans, donc j'ai acheté ça. Et il a aussi publié Le drame de l'humanisme athée, que j'ai déjà offert à un ami athée. Faillite de l'athéisme aussi. Cette faillite de l'athéisme, l'homme que notre foi nous révèle n'est pas l'être enchaîné. Nous qui croyons, nous ne sommes pas des êtres enchaînés, figés dans des routines, des peurs ou des servitudes. Car le réalisme chrétien, dit-il, dit le cardinal de Lubac, le vrai réalisme chrétien, ce qui fait qu'un vrai chrétien est un vrai chrétien, c'est un réalisme de plénitude. De plénitude. Parce que, dit-il, les disciples du Christ ne se sentent pas comme les rescapés d'un monde en naufrage, mais comme les pilotes chargés de le conduire au port. Tout ça résume sa pensée. Un chrétien s'accroche pas à un bout de bois qui serait l'Église pour éviter de se noyer. Il est pilote. Il est à bord d'une barque. Il cherche à piloter le monde vers le bon port. Quand il s'exprime comme ça, le cardinal de Lubac se réfère à la lettre pastorale du cardinal Suard en 1947. Il s'adressait aussi aux chrétiens d'aujourd'hui, évidemment, comme il l'a toujours fait toute sa vie. C'est ce que nous rappelle Yvan Desrochers dans l'église de Montréal au mois de février dernier, quand il nous a parlé du 100e anniversaire de la naissance du cardinal Henri de Lubac. Le pape a écrit au sujet du cardinal de Lubac une lettre remarquable, absolument remarquable. Ce sont des choses sublime, exceptionnel. C'est l'hommage du pape Paul VI au père de Lubac. Il dit à notre très cher fils, Henri de Lubac, membre de la Compagnie de Jésus. Je vous rappelle, il était jésuite. Il lui dit, cher fils, le 20 février de cette année, cette lettre est datée de 1976, le cardinal avait 80 ans, il n'était pas cardinal encore. Cher fils, le 20 février de cette année, vous atteindrez vos 80 ans. À cette occasion, s'empresseront autour de vous non seulement des amis et des membres de la Compagnie de Jésus à laquelle vous apportez un si grand renom, mais presque toute la France et d'innombrables savants de tout le monde catholique. C'est pourquoi nous avons voulu, nous, c'est le nous papal, hein? Nous avec un N majuscule, c'est fini, ça, les papes disent plutôt « je » maintenant. Hein? C'est pourquoi nous avons voulu vous adresser cette lettre tout à la fois pour montrer notre joie de père et manifester la haute opinion que nous avons de vous, et vous dire aussi, en notre nom et au nom de toute l'Église, la juste reconnaissance que nous vous devons. Si vous dire, toute cette lettre, ça dure encore des pages, toute cette lettre nous rappelle l'importance d'Henri de Lubac. Dans un bel ouvrage publié par les éditions Le Tielleux, dans la collection Le Sycomore, leur couverture n'est pas toujours intéressante, et je leur avais dit, vous vendriez beaucoup mieux vos livres si vous mettiez une jaquette autour de vos livres. Vous savez, une jaquette, c'est une feuille de papier que l'on plie un peu, puis qu'on entoure le livre avec ça, c'est en papier glacé en général. Ils l'ont fait pour ce livre qui s'est bien vendu, parce qu'ils ont mis une belle photo de Henri de Lubac, du cardinal de Lubac, au regard de feu. Hein. C'est un regard brun, noir, foncé, je l'ai rencontré. C'est un regard de feu qu'il avait. Il était habité comme par une puissance géniale. Son cerveau était exceptionnel. Et ce livre est écrit par Hans Urs von Balthasar, qui était un grand ami du cardinal de Lubac, et par Georges Chantraine. Or, on peut lire dans ce livre des renseignements extrêmement intéressants au sujet du cardinal de Lubac. La théologie du père de Lubac est portée par une puissance de synthèse. Il fait une synthèse de la réflexion catholique, qui est celle même de la tradition de l'Église. C'est un catholique accompli qu'Henri de Lubac, ce qui est très rare parce que c'est pas facile. La grande pensée de l'Église est immense et profonde. Elle a été porteuse pour tous ceux qui ont lu ses ouvrages, d'un désir. Le désir qu'ont des lecteurs de s'éveiller à la vérité, à la véritable vie de l'esprit. Quand on lit de Lubac, on lit pas de Lubac comme si c'était du petit lait. Non, on le lit comme si c'était un coup de tonnerre. Ou du moins un beau grand vent qui fait avancer les bateaux de façon magnifique. Parce que la tradition ne s'apprend pas quand même tout d'abord dans les livres, elle se reçoit de ceux qui en vivent. Et lui, il en vivait la tradition. Parce que la tradition, c'est vivant. Vous savez, il y a des gens dans l'Église qui se disent traditionnalistes. Je n'ai rien contre, à condition que cette tradition soit vivante et que ça les fasse vivre. Et cette tradition peut alors être recueillie dans des livres comme ceux de Henri de Lubac. Henri de Lubac était vraiment un Français. Du côté de son père, il venait de l'Ardèche. Et puis du côté de sa mère, il venait de la Bresse, où il a passé d'ailleurs son enfance. Et la Bresse, c'est une région où on apprend à vivre dans la douceur, dans l'humanité. Et ça l'a beaucoup marqué, ça, malgré son tempérament parfois un peu violent. J'y ai goûté une fois, il m'a fait une colère sur ses derniers jours, alors qu'il était très malade et qu'il était affligé de maux de tête épouvantables qui l'ont mené petit à petit à la mort. Hein. Il a eu une grande amitié pour Charles Péguy, Pic de la Mirandole, là, qui est mort il y a longtemps, mais il s'est beaucoup intéressé à Pic de la Mirandole. Et avant d'entrer dans la Compagnie de Jésus, en septembre 1913, c'est-à-dire à 17 ans, il est entré chez Jésuite, bien, Henri de Lubac s'est enchanté non seulement donc de Péguy, mais encore de ce grand poète théologien qu'est Claudel. Il a lu aussi Virgile avec beaucoup de passion. Parce que l'ampleur qu'on pourrait appeler cosmique et catholique de l'un, et le sens de la nature puis de la musique de Virgile, vont laisser dans son âme une impression définitive. Et alors, tandis qu'il s'oriente vers le sacerdoce, puis il se prépare, trois prêtres, trois jésuites vont l'introduire dans la profondeur puis la richesse de ce grand mystère chrétien. Auguste Valencien, dont je vous parlerai, j'ai presque fini de préparer une émission sur Auguste Valencien, quel jésuite admirable, Léonce de Grandmaison, que je prépare aussi, et Joseph Huby. Ce sont des grands personnages. C'est un homme de vaste culture que Valencien. Il a fait connaître à ce jeune jésuite Henri Lubac, Maurice Blondel, son maître, son ami, qui va lui apprendre les exigences, on peut dire, philosophiques du christianisme. Parce que, vous savez, ces gens-là ont su, avec leur cerveau, et leur foi, et leur esprit de prière, et leur approfondissement, écrire des livres qui sont des livres difficiles peut-être à lire, mais qui sont comme des bases, qui permettent finalement à ceux qui font de la vulgarisation de faire une vulgarisation intelligente, sérieuse et conforme à la foi. Il a eu comme confrère aussi, quelques années, Pierre Teilhard de Chardin. Puis il va devenir le confident de Pierre Teilhard de Chardin. Il va en devenir même le défenseur. Et puis, il y a Pierre Rousselot aussi, puis d'autres qui l'ont marqué. On peut considérer qu'il a été entouré, chez les jésuites, de gens de très grande envergure qui feront de lui, vous le verrez, un des hommes les plus merveilleux de ce siècle. Ce que Henri de Lubac, le père Henri de Lubac, a recherché, en compagnie de ces hommes dont je viens de vous parler, comme le père Joseph Huby, H-U-B-Y, le père Rousselot, avec Maurice Blondel, avec Joseph Maréchal, etc., c'est le lien entre la nature et le surnaturel, c'est-à-dire entre ce que l'homme est par nature, en vertu du fait qu'il est un être créé, et ce que l'homme est appelé à être devant le projet de Dieu, par la grâce surnaturelle qui en fait un fils, une fille de Dieu. Ça fournit ce mouvement secret qui anime d'ailleurs la pensée puis la vie chrétienne. Là où ce lien, dit Henri Lubac, là où ce lien se détend ou se défait entre la nature et le surnaturel, eh bien le christianisme s'anémie et se meurt. Hein. Vous savez, les gens qui refusent la nature, qui considèrent que ce qui est naturel est malsain. Ce n'est pas malsain. Ça peut être sanctifié. La sexualité est sanctifiée par le mariage. Le rire est sanctifié par la joie communicative. La bonne nourriture est sanctifiée par le fait qu'elle attire des amis autour de notre table et que nous pouvons ainsi fraterniser, communiquer et s'enrichir spirituellement les uns les autres. Le beau temps permet de glorifier Dieu. Ce qui est beau et bon permet de s'épanouir. Ce qui est naturel est voulu par Dieu. Dans un ordre, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et le surnaturel aussi, dans un ordre, permet à la grâce de faire grandir l'humanité. Et quand on allie les deux, le christianisme s'épanouit. Il s'agit de montrer, et c'est l'unique et constante visée de Henri de Lubac, il s'agit de montrer comment, par le fond de lui-même, l'esprit humain est ouvert au Dieu vivant et vrai, révélé en son Fils Jésus-Christ, et comment le Nouveau Testament comble un désir que l'homme a lui-même suscité. Car l'homme cherche au fond de lui-même quelqu'un de stable, ses amours sont fugaces. Même ses plus belles amours sanctifiées par le sacrement de mariage se terminent un moment par la mort de l'un ou l'autre. Et le veuvage est une condition difficile et dure. Je pense à mon frère aîné qui est devenu veuf à 45 ans, sa femme étant morte dans une épidémie de polio dans les années 50. À 42 ans, il restait avec 6 enfants, de 16 à 6 ans. C'est terrible. Mais son amour pour Jésus-Christ lui a permis de passer à travers. Et la nourriture qu'il recevait du Nouveau Testament lui a permis de grandir, de se rendre sans trop de souffrance jusqu'à 76 ans. C'est la nouveauté unique et éternelle de Jésus-Christ qui transforme nos cœurs. C'est le mot de saint Irénée qui faisait vibrer le cardinal Henri de Lubac, ce mot magnifique que vous connaissez, j'espère. En s'apportant lui-même, le Christ a apporté toute nouveauté. Celui qui découvre Jésus-Christ et qui se laisse découvrir par Jésus-Christ découvre toute nouveauté en accomplissant la promesse. Jésus transfigure l'Ancien Testament qu'il annonçait, en même temps qu'il en a déclaré le caractère relativement vétuste. L'acte du Christ qui, en sauvant les hommes, accomplit la promesse qui est annoncée dans l'Ancien Testament, bien, il a transformé l'histoire du dedans par l'Esprit Saint. Et par le même Esprit, lui a donné à cette histoire son sens et son intelligence. Et c'est là qu'on comprend le sens de l'histoire. Et à la suite de saint Paul, lui-même inspiré par le Seigneur Jésus et d'accord avec saint Jean et les autres évangélistes, eh bien, Origène, qu'a tant aimé Henri de Lubac, c'est un père de l'Église, qui a vécu il y a plus de 1500 ans. Mais Origène a merveilleusement compris puis expliqué ce rapport entre histoire et esprit, dont le père de Lubac va faire en 1950 un ouvrage écrit dans l'enthousiasme pendant une convalescence, car il avait été malade, à la Baume près d'Aix. Et sans doute que, autant qu'au rapport entre nature et surnaturel, bien, il y a le père Ubi, là, qui a éveillé l'esprit de son disciple Henri de Lubac. À ce cas d'unique, le Nouveau Testament. Dites-vous bien que le Nouveau Testament a quelque chose d'unique, et si vous ne l'avez pas encore découvert, allez à sa recherche. Vous découvrirez la perle de toute l'histoire de l'humanité. Le livre le plus précieux qui soit. Gardez-en un exemplaire près de votre lit. Et le soir, si vous avez de la difficulté un peu à vous endormir, ouvrez-le. Ouvrez le Nouveau Testament. Lisez quelques versets. Petit à petit, vous aurez le goût d'en faire une étude systématique. Comme ça s'est fait cet été à la radio de Radio Ville-Marie, dans la Bible en main. Ça se fait et on apprend les richesses qui nous ont été révélées par Dieu lui-même. C'est cette recherche, ça lui a laissé à Henri Lubac l'exemple d'un théologien qui a été obligé d'accepter d'un cœur serein mais non sans souffrance l'interdiction qui lui a été faite par le général de l'ordre des Jésuites d'enseigner, mais Henri de Lubac a pu voir alors ce que signifie servir le Dieu toujours plus grand. Et il l'a servi en acceptant cette difficulté qu'il a rencontrée à un moment donné, et qui a duré, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu plus de 5 ans. Mais tout s'est fait, s'est refait, et on peut dire que jusqu'en 1971, le père de Lubac a travaillé dans l'humilité et la simplicité, même quand il a recommencé à enseigner, au point qu'il dactylographiait lui-même les milliers de pages de ses livres qu'il écrivait. Et il avait alors 75 ans. Alors il a succédé au père Albert Valencin, dont je vous parlerai un jour, et il lui ajoutait l'année suivante l'histoire des religions qui l'intéressait beaucoup. C'était des débuts laborieux. Il n'y a pas eu de longue préparation scientifique, il y avait peu d'instruments de travail. Il n'y avait pas de secrétaire, comme je vous ai dit, puisque jusqu'en 1971, imaginez, pendant 40 ans, plus de 40 ans, il a dactylographié lui-même des milliers de pages de son œuvre. Alors, peu de moyens matériels. Mais en revanche, il avait un milieu où l'on respire Dieu, une communauté où Dieu est vivant. Et les jésuites de Fourvière à Lyon avaient le goût de le servir. Et le père de Lubac va l'évoquer d'ailleurs dans des pages magnifiques. Image de l'abbé Montchanin, paru en 1967. Un jour, je vous parlerai bien de l'abbé Montchanin. Cet homme extraordinaire. Ce prêtre génial qui était un mystique et un saint. Et d'ailleurs, c'était pour lui l'origine de trois livres sur le bouddhisme. Parce que Montchanin était très versé sur la pensée de l'Orient. Et c'est comme ça qu'Henri Lubac a publié Aspects du bouddhisme en 51, La rencontre du bouddhisme et de l'Occident en 52, et Amida en 1955. Et ces deux prêtres savent qu'annoncer l'Évangile à un peuple, c'est en même temps convertir sa culture, viser et atteindre les ancêtres, ses ancêtres. Et c'est le même élan mystique et missionnaire qui porte l'œuvre du père de Lubac et qui poussera l'abbé Montchanin à se consacrer à l'Inde en la représentant à Dieu dans une prière d'adoration et d'attente. Et Montchanin, qui est allé vivre là-bas, en a fait la confidence avant son départ pour l'Inde dans une lettre datée de 1139. Il dit à Henri de Lubac que j'ai revu à Lyon, c'est-à-dire il écrit à quelqu'un d'autre, j'ai revu à Lyon le père de Lubac, sans doute, le père de L, seul longuement. Il m'aurait dit toute son amitié, étant celui qu'il cherchait, réalisant l'intuition qu'il avait eue dès le séminaire, c'est-à-dire, c'est très important, c'est fondamental ça, repenser tout à la lumière de la théologie, et celle-ci, repenser la théologie, par la mystique, la dégageant de tout l'accessoire et retrouvant par la seule spiritualité tout l'essentiel. Quand on fait de la théologie et qu'on ne va pas vers la mystique, on perd son temps, on joue avec des blocs. Et si cette mystique ne débouche pas sur une spiritualité vivante, c'est-à-dire une action de l'âme, mue par l'Esprit Saint, vivante de Dieu, de la Trinité. La théologie s'effrite. La théologie ne devient que sèche, rêche. Elle ne nourrit pas l'Église. Elle ne nourrit pas le théologien. Elle ne nourrit pas les élèves. Elle ne nourrit personne. Elle devient un amas de poussière, de papier, de piles de livres. Et dans la lettre de Montchanin, il est dit, « Il pense que c'est en me heurtant à l'Inde que je pourrai refaire la théologie beaucoup mieux qu'en creusant les problèmes théologiques pour eux-mêmes. » Alors on peut considérer comme le centre de l'œuvre et de la pensée du père de Lubac une préface qu'il va rédiger pour « La mystique et les mystiques » parue en 1965, en notant que il doit une dette énorme à l'abbé Montchanin. Il s'ajoute une autre dette envers le père Louis Bouillet. Ah, le merveilleux père Louis Bouillet, c'est un protestant, pasteur protestant qui est devenu prêtre de l'oratoire, un oratorien fondé par Saint-Philippe Néri. Ce père Bouillet lui a appris à mieux voir quelques-uns des traits spécifiques là, d'une vraie mystique chrétienne. Il faut dire qu'à Lyon, à ce moment-là, c'était un centre d'écuménisme aussi de l'abbé Paul Couturier, dont il faudra bien un jour que je vous parle aussi. Puis il y avait là la chronique sociale, la réflexion sociale autour de Marius Gonin. Et le père de Lubac les fréquente, hein, puis fréquente aussi un autre personnage dont il va falloir parler, Louis Massignon, qui a tant tendu la main aux musulmans, hein, à l'islam. Louis Massignon qui avait été invité à Lyon pour imprimer aux équipes sociales de Robert Garrick, là, une orientation sûre. Puis il y avait aussi l'abbé Édouard Dupéré, un autre personnage merveilleux qui avait établi un foyer chinois pour comprendre la Chine, et tant d'autres. Que de gens merveilleux dans l'Église, que de gens extraordinaires l'Église suscite, et qui sont si peu connus, et dont on parle si peu. Quand le cardinal de Lubac est décédé, on a fait paraître à la presse, dans la presse, 5 lignes, je les ai gardées. Décès à Paris du cardinal Henri de Lubac, ce célèbre jésuite théologien qui se vit interdire d'enseigner entre 1946 et 1954, avant d'être réhabilité en 1958 sous le pape Jean XXIII. Il avait 95 ans, et c'est tout ce qu'on a à dire. Et pourtant, dans la presse, en 1958, j'ai gardé l'exemplaire. Le 11 novembre 1958, il est dit « Entrée à l'Académie des sciences morales du révérend père Henri de Lubac ». Et on écrit une 30aine de lignes, comme quoi les choses ont bien changé à Montréal en quelques 40 ans, ou 45 ans, ou 35 ans plutôt. Le père Henri de Lubac, dit-on en 1958 dans la presse, jésuite, a été élu hier après-midi à l'Académie des sciences morales et politiques, au fauteuil laissé vacant par le décès de Mgr Chevreau. Il a été élu au premier tour de scrutin par 21 voix sur 36 votants. Théologien, le père de Lubac a occupé pendant plus de 25 ans la chaire de théologie fondamentale à la Faculté catholique de Lyon, dont il reste le titulaire. Il a publié entre 1944 et 1950 « Corpus Mysticum », qui montre la profondeur et la complexité des liens qui unissent l'Eucharistie et l'Église. Surnaturel, qui aborde le problème des rapports entre la philosophie et la théologie, entre la raison et la foi. Histoire et esprit, qui étudie l'interprétation ancienne des Écritures. C'est toujours dans la presse de 1958, on écrivait des choses comme ça. Et l'article se termine, c'est toujours par l'étude historique que le père de Lubac aborde les grands sujets auxquels il s'attache. Il dirige la collection Sources chrétiennes, en collaboration avec le père Danilou, autre père dont je vous ai parlé l'an dernier, qui est devenu cardinal avant de mourir, le cardinal Jean Danilou, que j'ai bien connu aussi. On dit, le nouvel académicien Henri Lubac a également étudié les problèmes découlant de l'athéisme et ceux qui ont trait au rapport entre le christianisme et les religions asiatiques. Que la presse a changé. Comme vous voyez, dans ce temps-là, on comprenait. Aujourd'hui, on ne comprend plus. On aura des pages sur Michael Jackson et 4 lignes à la mort de ces grands hommes. Le premier livre véritable, considérable de Père de Lubac, c'est Catholicisme, et que le Père Congar va lui arracher pour sa nouvelle collection, Unam Sanctam. Et en 1935, Henri Lubac, qui est professeur à la faculté de théologie, monte à Fourvière, maison jésuite de formation théologique, et il n'y donne que des cours occasionnels, n'est-ce pas? Il dispose d'une bibliothèque, partage la vie du corps professoral. Il est alors un aîné très écouté de quelques jeunes étudiants jésuites. Et c'est le père Xavier Tillette qui écrit, « Il insistait sur la conversion nécessaire à l'entrée en théologie. » C'est beau, ça, hein? Il insistait sur la conversion nécessaire à l'entrée en théologie. On n'étudie pas la théologie sans se convertir intérieurement aux réalités profondes dont parle la théologie. Puisque c'est l'étude de Dieu d'abord. Et Xavier Tillette ajoute qu'Henri Lubac recommandait avec force l'objectivité, la soumission aux données, c'est-à-dire la soumission à la révélation, aux données révélées. Car Henri Lubac était un homme soumis. Dans la liberté, vous direz la soumission implique l'esclavage. Non, 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 non. Xavier Tillette ajoute, et quand le donné est révélé, qu'il est mystère, la soumission doit être totale. À ce prix, Écoutez bien ça, à ce prix, on retrouve une intelligibilité supérieure, inépuisable. En d'autres termes, c'est à ce prix-là qu'on comprend de façon grandiose et profonde les vérités que Jésus, Saint Paul, les auteurs du Nouveau Testament et de la Bible nous ont apprises. Je vous ai dit qu'il avait fondé les sources chrétiennes. C'est une collection admirable. Admirable, immense. Il s'est rendu à des centaines et des centaines de volumes, des sources chrétiennes. Une collection fabuleuse. Dans son intention, c'était pour donner un très large public un accès facile à tous ces grands textes de la tradition. Et d'ailleurs, la collection des sources chrétiennes qui est toujours publiée sont restées spécialisées aux écrits des pères de l'Église, des premiers auteurs jusqu'au 7e ou 12e siècle, si vous préférez, et les auteurs médiévaux, d'ailleurs, qui sont édités avec un sens critique très, très développé, des notes et tout. Puis, ça a commencé sous la direction du père Claude Mondésert, un autre dont il faudra parler un jour. On peut pas parler de tous ces grands hommes du 20e siècle. Depuis 1945, le père de Lubac observait les signes nombreux de l'affaiblissement spirituel de notre monde. C'est Karl Barth, ce grand théologien protestant, qui parlait de l'affaiblissement spirituel, qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des affaiblissements spirituels. Je vous parlerai un jour du grand affaiblissement spirituel du 16e siècle, où l'athéisme a fait une montée fantastique à ce moment-là. Et oui, on oublie toujours ça. C'est pas d'aujourd'hui, qu'il y a une espèce de désir de supprimer Dieu et de supprimer le sens. Alors, voyant que le sacerdoce était dégradé, que l'Eucharistie était comme banalisée ou même profanée, voyant aussi que la pensée chrétienne était avilie, que la vie chrétienne était en somme sécularisée, voyant aussi que l'autorité du pape était méprisée, eh bien, Henri Lubac apprenait jusque dans sa chair l'espérance qui s'est formée au Golgotha. C'est là qu'elle s'est formée, la première espérance. Quand le Christ meurt et que les apôtres s'enfuient, se mettent à réfléchir et tout à coup le Christ ressuscite et toute leur espérance grandit. Alors les coups portés à l'Église du Christ par ses enfants, il les ressentait, Henri Lubac, comme s'il en était frappé lui-même. Il a écrit d'ailleurs dans Méditation sur l'Église en 1953, « Il se peut que bien des choses dans le contexte humain de l'Église nous déçoivent. Il se peut aussi que nous y soyons, sans qu'il y ait de notre faute, profondément incompris. Il se peut que, dans son sein même, nous ayons à subir persécution. Mais la patience et le silence aimant vaudront alors mieux que tout. Je répète, la patience et le silence aimant vaudront alors mieux que tout. Nous n'aurons point à craindre le jugement de ceux qui ne voient pas le cœur. Et nous penserons que jamais l'Église ne donne mieux Jésus-Christ que dans ces occasions qu'elle nous offre d'être configurés à sa passion. L'épreuve sera peut-être plus lourde, continue le père Henri Lubac, l'épreuve sera peut-être plus lourde, si elle ne vient pas de la malice de quelques hommes, mais d'une situation qui peut paraître inextricable, car il ne suffit point alors pour la surmonter d'un pardon généreux ni d'un oubli de sa propre personne. Et il termine en disant, soyons cependant heureux, devant le Père qui voit dans le secret, de participer de la sorte à cette veritatis unitas, cette unité de la vérité, que nous implorons pour nous au jour du Vendredi Saint. Et avec toute la tradition, il voit dans la foi chrétienne la Trinité Sainte qui se révèle à l'Église comme objet d'une foi qui suscite l'élan de tout l'esprit. Ah, le voyez-vous quand vous allez à la messe, là? La voyez-vous, cette Trinité Sainte qui se révèle à la communauté de l'Église, dans la paroisse, dans le temple, dans l'endroit où vous êtes autour d'un prêtre pour célébrer l'Eucharistie? La voyez-vous, la Trinité? qui se révèle comme objet d'une foi qui suscite l'élan de tout l'esprit. Cette prière grandiose de l'Église dans la liturgie qui s'adresse à Dieu notre Père. Par Jésus-Christ, son Fils unique, dans l'unité de l'Esprit-Saint, je vous en parlerai vendredi. Ça soulève, ça suscite l'élan. Vous sentez-vous ému? Avez-vous le goût tout à coup de voler, d'avoir des ailes? C'est tellement passionnant la foi. Tellement passionnant. Et le père de Lubac a été entouré d'une nuée de témoins. Il a été privilégié. Il a vécu à une époque forte de l'Église. Et cette époque forte de l'Église a suscité chez lui, malgré que ce soit un homme effacé, un théologien qui parfois était presque oublié par certaines personnes, mais Jean-Paul II a voulu le tirer de la retraite en l'élevant au cardinalat, et déjà à Paris en 1980, dans les jardins de l'Institut catholique, il l'avait fait monter sur le podium pour l'embrasser, et par plusieurs, il lui avait fait dire qu'il désirait le voir à Rome. Tant est solide et profonde l'estime qui lie Jean-Paul II et le cardinal de Lubac, depuis qu'ils se sont rencontrés au Concile. C'est extraordinaire, et le père de Lubac a déjà dit ce qui suit. Il y a, dans le consistoire, un homme hors format, mais c'est un Polonais, et les cardinaux auront-ils l'audace de l'élire dans la situation actuelle du monde? Et ce fut son candidat qu'ils ont élu, effectivement, à sa surprise et à sa joie. Et il y avait, dans le cœur du père de Lubac, une grande joie, une joie de l'amitié, hein, qui jaillissait d'un attachement à Dieu et à l'homme partagé avec d'autres. Rien de plus purement français, d'ailleurs, que Henri Lubac, et pourtant, rien de plus purement polonais que Karol Wojtyła, élu sous le nom de Jean-Paul II. Les deux hommes étaient solidement attachés à leur patrie, pétris de leur culture respective. Mais leur sentiment national ne s'est jamais exaspéré dans un nationalisme perdu. Leur sentiment national profond, leur goût de leur propre culture, ils ouvraient l'un à l'autre, à la beauté et à la vérité de toutes les cultures. Être français, être polonais, mais je dirais être québécois, c'est une manière d'être homme, d'avoir ses racines d'homme, d'accéder à travers une culture particulière à l'humanité de l'homme. Et c'est aussi une manière de percevoir cette humanité, non comme une espèce d'abstraction, mais comme une réalité vivante, partout à découvrir avec tact, douceur, probité, patience, toujours à recevoir aussi de celui qui en est la source, Dieu, avec émerveillement et action de grâce. Pour en proclamer avec force la dignité et s'engager tout entier, à corps perdu, envers et contre tout, en vue de lui faire atteindre sa dignité, de la sauver, cette culture, et de la lui rendre encore plus admirable dans le Christ. C'est ça ce sentiment national profond qu'ils avaient. Ils l'ont vécu. Amour de l'homme qui s'achève dans le pardon. D'où encore un même sens de ce qu'est l'athéisme, qui l'a tellement intéressé, le problème de l'athéisme, Henri Lubac. En milieu post-chrétien, on peut dire que l'athéisme emprunte la force de sa négation à l'affirmation du Dieu vivant et vrai que confesse l'Église. Il a nié la foi en la pervertissant. Les athées souvent pervertissent notre foi. Ils la voient mal, puis ils annihilent cette foi. Et du même coup, l'athéisme annihile l'humanité de l'homme en exaltant l'homme contre Dieu. Et aussi, il faut dire que l'affirmation positive de la foi, elle est en même temps l'affirmation de l'humanité de l'homme. Croire, c'est affirmer l'humanité de l'homme. C'est affirmer la libération de l'homme. Je m'inspire de la pensée d'Henri Lubac. La foi, elle a la puissance de déstabiliser les puissances qui la combattent. elle la trouve en Dieu. Adorer, adorer dans le silence. Dans un beau petit livre paru en 1946, d'Henri Lubac, titulé « Paradoxe », il y écrit « C'est fondamental. Ce n'est pas avec une littérature de vulgarisation, fût-ce la plus intelligente et la mieux adaptée, qu'on fera jamais une pensée chrétienne. Et dans la mesure où manque une pensée chrétienne, dans cette même mesure, l'œuvre d'adaptation ne peut elle-même se faire. Or, une pensée chrétienne n'existe nulle part en soi. Elle n'a pas la substance objective de la doctrine. Elle ne peut naître que par l'effort de pensée du chrétien. Et l'effort de pensée fourni par nos pères ne nous dispense pas d'un effort analogue. Les pères de l'Église ont fait des efforts fantastiques. Ils ont participé à cette immense fondation du christianisme. Et le père de Lubac termine en disant, car la pensée ne se thésaurise pas. Elle est quelque chose de vivant et qui se pige et se sclérose et meurt très vite quand on la thésaurise. Ce théologien a élevé son œuvre au-dessus des partialités de droite et de gauche, d'hier et d'aujourd'hui. Il a été un théologien vivant qui n'a pas craint la croix. Pour lui, le mystère de l'Église était le Christ lui-même. Il a acquis la conviction qu'en restaurant l'homme, l'Évangile rénove de l'intérieur toute culture, pénétrant jusqu'au vocabulaire et à la grammaire même. Étant prêtre et jésuite, il est convaincu avec saint Paul que l'apôtre mène, en annonçant l'Évangile, un combat non contre les puissances de chair et de sang, mais contre les puissances spirituelles mauvaises. Et dès 1938, donc dans le catholicisme, il a dénoncé la montée des totalitarismes. Et ainsi, toute sa vie, il a lutté pour Dieu, pour l'Église, pour l'homme. Toute l'œuvre du père Henri de Lubac est comme aspirée par Dieu. Toute l'œuvre du père de Lubac est comme un feu d'artifice, mais un feu d'artifice qui nous plonge au cœur de l'essentiel. Et le sujet le plus actuel qu'on puisse imaginer dans l'histoire spirituelle de l'Occident, il l'a développé, il l'a aimé, il l'a servi. Et ainsi, quand on lit « Athéisme et sens de l'homme », petit livre paru dans « Foi vivante », il y a plusieurs années, mais qui est toujours réédité aux éditions du Cerf, on comprend beaucoup mieux. On comprend beaucoup mieux. Et quel beau livre aussi que « Le drame de l'humanisme athée » d'Henri Lubac dans la collection 10-18. C'est tout de même une très belle collection que 10-18. Il faut lire ça. Je vous le conseille. C'est donc aujourd'hui le 5e anniversaire du décès du cardinal Henri de Lubac.